Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, alors que la Chine doit faire face à une vague de contamination Covid sans précédent depuis 3 ans, l'Europe réagit et demande désormais à minima des tests négatifs de moins de 48 heures pour les voyageurs embarquant à Pékin. C'est le cas pour les Pays-Bas qui, après avoir tergiversé, a adopté la mesure cette semaine, car dans la balance, il y a le tourisme. Les visiteurs chinois ont dépensé 155 millions d'euros dans le pays en 2019. Dans la petite ville de Ritorn, au nord du pays, les professionnels du secteur se réjouissent du retour de cette clientèle asiatique. Mais dans la petite Venise du Nord, comme on l'appelle, il faudra se montrer patient, car les prévisions tablent sur une fréquentation très en deçà des années précédant le Covid. Reportage signé Antoine Moutot.
À bord de sa barque, Ronald de Bourg fait le tour du village de Ritorn. Le long du petit canal sur lequel il navigue, défilent de nombreuses maisons typiques en briques et aux imposants toits de chaume, agrémentés de vastes jardins ouverts. Un décor pittoresque qui a de quoi faire pâlir les plus belles illustrations de contes de fées et qui fait vivre Ronald de Bourg.
J'ai créé un site web, il s'appelle ritorn.com. J'y fais la promotion du village. On y trouve toutes les informations sur Ritorn, mais aussi tout ce que vous pouvez y louer, y faire et comment réserver. En fait, je m'occupe de la publicité de toutes les entreprises du village.
En temps normal, même au mois de janvier et ses basses températures, les canaux de Ritorn sont remplis de touristes chinois venus y prendre des selfies ou leurs photos de mariage. Pendant longtemps, dans cette bourgade de 2600 habitants seulement, les 350 000 touristes chinois annuels étaient loin de passer inaperçus. Mais depuis le début de la crise du Covid-19 il y a 2 ans, Ritorn a pris des allures d'âpres déserts.
Au cours des 2 dernières années, ça a été bien sûr très calme ici. Le tourisme en provenance de Chine était complètement à l'arrêt. Sa reprise, c'est donc une très bonne nouvelle pour la prospérité et pour la fréquentation du village. Mais pour ça, les entreprises ici vont devoir être prêtes rapidement, faire en sorte que les bateaux soient opérationnels à temps et engager plus de personnel aussi.
Avec la récente levée de restrictions de voyage par Pékin, l'espoir de revoir cette manne financière non négligeable dans le village est en effet très présent chez les commerçants de la zone. Et comme eux, Ronald de Bourg scrute l'évolution des décisions des autorités chinoises avec beaucoup d'attention.
Il faut encore être un peu patient et attendre de voir s'ils peuvent vraiment revenir. Car bien évidemment, il y a des évolutions en Chine qui pourraient bloquer leur retour et impacter la fréquentation ici.
Paradoxe, il y a encore 3 ans avant la crise sanitaire, ce ne sont pas les personnes désireuses de voir arriver les Chinois à Ritorn qui faisaient la une des journaux néerlandais, mais au contraire des habitants du village excédés par les panneaux en mandarin qui pullulaient le long des canaux, ainsi que par la pression d'investisseurs chinois qui achetaient de nombreuses maisons et autres bâtiments du village afin d'y ouvrir hôtels et restaurants. Les riverains disaient alors craindre que leur bourg ne finisse par se transformer en un parc d'attractions sans âme. Aujourd'hui, après 2 années sans ces touristes aux porte-monnaies garnies, la grande majorité des panneaux en mandarin ont disparu et le débat sur le tourisme de masse semble s'être estompé. À l'aéroport international de Schiphol, à 130 km de là, les premiers visiteurs chinois arrivent au compte-gouttes et l'euphorie est souvent au rendez-vous. C'est le cas de Veronica Chan Oting, originaire de Hong Kong.
Nous avons attendu tellement longtemps. On ne pouvait plus voyager, plus faire grand-chose. Je me réjouis tellement de pouvoir faire cette excursion.
Veronica Chan Oting est chargée de projet dans un institut professionnel de Hong Kong. Avec un groupe d'universitaires en provenance de plusieurs villes de Chine, elle est venue participer à un programme culturel autour de l'œuvre de Vincent Van Gogh. Tout comme Raymond Lau, lui aussi universitaire à Hong Kong.
Nous sommes tous très heureux. Maintenant que les problèmes liés au Covid-19 sont du passé, c'est notre premier voyage hors de Chine.
Avant 2020, les Pays-Bas accueillaient chaque année environ 400 000 visiteurs chinois. L'Institut national du tourisme tablait alors sur une croissance exponentielle. Désormais, après 2 années de tourisme chinois gelé, sauf en cas d'éventuelles nouvelles restrictions de Pékin, il ose à peine miser sur un peu moins de 200 000 touristes venus de Chine en 2023. Et il n'y a en réalité rien de moins sûr.
España es otro de los países más sufridos por los efectos de la pandemia. Su gobierno declaró hoy que los nuevos fallecidos por el virus ascendieron a la cifra de 324 en el día de ayer.
Et en Italie et en Espagne, on va plus loin. En Espagne, où le secteur du tourisme représente toujours 8% du PIB, on se montre toutefois intraitable pour lutter contre la pandémie. À l'aéroport de Madrid, tous les voyageurs en provenance de Chine sont testés, Diane Cambon.
Au risque de contrarier la Chine, l'Espagne a décidé de demander aux voyageurs venant de ce pays un test négatif ou un schéma complet de vaccination. Les contrôles sont de retour dans les aéroports pour ces voyageurs, une mesure qui a été prise de façon unilatérale sans attendre une réponse commune de l'Union européenne. La ministre de la Santé espagnole, Carolina Darias, considère que de nouveaux variants non contrôlés peuvent venir de Chine, ce qui explique la rapidité de cette initiative. Le gouvernement espagnol a aussi voulu couper l'herbe sous le pied à la présidente de la Communauté de Madrid, la conservatrice Isabel Ayuso, qui s'est empressée de critiquer l'inaction de l'exécutif socialiste pour protéger la population. Madrid a été une des villes les plus affectées lors de la pandémie en 2020. Madrid est d'ailleurs cette fois la seule région à avoir réintroduit le protocole Covid dans les maisons de retraite face à la nouvelle menace du virus en provenance de la Chine. Madrid a sollicité auprès de l'Union européenne que soit demandé le certificat Covid numérique ou l'équivalent aux voyageurs en provenance de Chine, ce à quoi Pékin a répondu en demandant réciprocité. Exiger aux voyageurs en provenance de la péninsule ibérique un test négatif ou un schéma complet de vaccination. Le gouvernement espagnol a assuré que ces mesures de protection allaient durer en principe jusqu'au 15 février, sauf si l'épidémie se propage. L'Espagne, comme les autres pays européens, espère le retour du touriste chinois, lequel dépense environ 2 000 euros durant une semaine. En 2019, quelques 700 000 vacanciers chinois avaient visité le pays. Flamenco et jambon ibérique sont les dadas de ce visiteur asiatique si recherché.
Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ein unheimlich langes Wort.
Les économies d'énergie, elles sont la priorité de ce début d'année 2023 en Europe. Et en Allemagne, c'est un mot à rallonge de 56 lettres qui est la vedette. Il s'agit littéralement d'un décret relatif aux mesures destinées à garantir rapidement l'approvisionnement en énergie. En clair, les mesures d'économie mises en place depuis le 1er septembre dans les administrations publiques. Les parlementaires allemands n'ont, paraît-il, plus que ce mot à la bouche. Pour les autres, les simples citoyens, c'est plus compliqué, car comme l'a constaté Delphine Nerbollier, ce mot valise est tout simplement imprononçable.
Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung.
Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung.
Pas facile à prononcer, même pour les Allemands. Ce mot de 56 lettres n'en finit pas. Dans les réseaux sociaux, il est caricaturé sous la forme d'un teckel, ce chien au corps exagérément allongé. Ce monstre de mots, comme il est souvent décrit, est le nom d'une ordonnance, tenez-vous bien, sur les mesures de sécurité d'approvisionnement énergétique à court terme. Ça, c'est pour le mot à mot. En clair, c'est une ordonnance fédérale qui indique aux administrations, aux employeurs et aux commerces les mesures à prendre cet hiver pour économiser de l'énergie. Donner un nom aussi long et aussi compliqué à un texte juridique en Allemagne, c'est tout à fait normal. Comme nous l'explique Stefan Häufer, c'est le porte-parole du ministère de l'économie et de l'énergie à l'origine de ce texte au nom étrange.
Alors c'est vrai, l'administration allemande a tendance à vouloir donner aux lois un nom composé d'un seul mot. Tous les détails sont empaquetés dans un seul mot. C'est possible avec la langue allemande. Ça donne une grande créativité avec des mots parfois étranges. Au ministère, on a créé une abréviation, NC-Kumav, je crois, et elle aussi, elle est bizarre.
NC-Kumav,
Encore un mot valise barbare constitué des premières lettres de chaque mot inclus dans le nom de cette ordonnance. Mais revenons à notre mot d'origine en 56 lettres. Sur le terrain, la plupart des Allemands ne connaissent ni ce nom, ni son abréviation. Mais ils savent à quoi ils correspondent, comme cette retraitée croisée dans un centre commercial de Berlin.
Nous devons faire des économies pour que Poutine perde. Moi, j'ai toujours été économe car j'ai toujours eu peu d'argent. Ça ne change rien pour moi, je ne chauffe pas les pièces vides, j'éteins la lumière derrière moi, je mets un pull, j'ai toujours fait ça.
Concrètement, cette ordonnance fixe des principes de base pour les bâtiments publics et les lieux de travail, en dehors des hôpitaux et des écoles. Pas plus de 19 degrés donc dans les bureaux, pas de chauffage du tout dans les couloirs, fin de l'éclairage lumineux de nuit pour les bâtiments officiels et touristiques, sauf si la sécurité est mise à mal, fini aussi l'éclairage des panneaux publicitaires entre 22 et 16 heures, sans parler de l'absence d'eau chaude pour se laver les mains dans les toilettes publiques. Benny travaille dans le quartier de Potsdamer Platz, dans le centre de Berlin. Durant sa pause cigarette, il nous explique comment son chef applique cette ordonnance sur l'économie d'énergie.
Dans notre bureau, nous avons trois cuisines et notre chef a arrêté deux des réfrigérateurs qui s'y trouvent. Donc on n'en a plus qu'un. C'est une personne assez optimiste, mais il nous a clairement dit vouloir économiser l'énergie là où c'est possible. En fait, on a un certain niveau de luxe qui n'est pas nécessaire.
Au ministère de l'économie aussi, on applique la règle. On se veut exemplaire, comme nous l'explique Stefan Heufel, le porte-parole.
Oui, parfois, dans notre ministère, il fait froid, ou du moins, il fait plus frais. Je vois des gens qui apportent leurs pantoufles, qui portent plus de chaussettes quand ils restent longtemps assis. Nous avons aussi moins d'éclairage. Et surtout, nous n'avons plus du tout d'eau chaude. Les chauffe-eau ont été mis à l'arrêt.
Économiser de l'énergie en cette période de guerre en Ukraine et de difficultés d'approvisionnement en gaz est aussi et surtout un objectif sur le long terme, comme le rappelle ce fonctionnaire du ministère de l'économie.
Il ne s'agit pas de s'habituer au froid, ce n'est pas notre but, mais plutôt d'apprendre à économiser. Cette ordonnance est importante, notamment pour les administrations publiques, qui devront fonctionner quasiment de manière neutre en carbone d'ici à 2030. On doit donc prendre des mesures et surtout apprendre à les mettre en pratique. Les ordonnances de ce genre sont donc utiles.
Cette ordonnance sur les économies d'énergie à court terme est entrée en vigueur le 1er octobre et semble avoir eu un certain impact. La consommation d'énergie des Allemands est en baisse, moins 15% l'an dernier par rapport à 2021. Mais cette baisse est peut-être aussi et surtout liée à la flambée des prix et au pragmatisme des consommateurs qui craignent de ne pas pouvoir payer leurs futures factures de gaz et d'électricité.
Le combat pour la biodiversité, c'est aussi la lutte contre les espèces invasives. Dans le sud de la Turquie, la petite station balnéaire de Kaş en sait quelque chose. Les eaux de la Méditerranée orientale doivent désormais faire la chasse au poisson lion. Un poisson qui a migré à la faveur de l'élargissement du canal de Suez en 2015 et du réchauffement climatique. Un prédateur qui a tendance à tout balayer sur son passage et qui n'est pas le seul à bouleverser tout l'écosystème régional. À Kaş, reportage de Céline Pierre Magnani.
Mourad Rahman, 65 ans, compte une dizaine de milliers de plongées au compteur. Ce stambouliote s'est installé dans la petite station balnéaire de Kaş, au sud de la Turquie, et il y a fondé une école de plongée. Il l'a baptisée Dragoman, une marque désormais bien connue dans la région. Au cours de ses nombreuses plongées sous-marines, il a rencontré le poisson lion.
2014, c'est là qu'on a fait nos premières photos d'un poisson lion. On avait entendu qu'ils étaient en train d'arriver vers Israël, Liban, etc. C'est là où il y a les premières observations. Donc je me souviens faire plusieurs plongées au même endroit parce qu'il y avait un individu qu'on cherchait. Et puis on en a vu un autre, puis un autre, etc. On en a vu peut-être 5-6 au total en 2014.
Ce dimanche matin, Mourad se rend à un symposium sur la biodiversité, à quelques kilomètres de là. Une vingtaine de spécialistes en biologie marine de tous horizons se retrouvent pour parler de leurs derniers travaux. La turco-canadienne Aileen Ullman est l'une des meilleures spécialistes du poisson lion dans la région.
On les trouve normalement autour d'habitats rocheux, dans des endroits où ils peuvent se cacher. Leur estomac peut se dilater jusqu'à plus de 25 fois leur taille. Et les espèces indigènes ne les identifient pas comme des prédateurs, car elles n'ont pas le bagage évolutif nécessaire pour cela. Ils se nourrissent donc principalement d'espèces indigènes, mais ce sont comme des petits aspirateurs. Ils sont comme des hooveurs et ils aspirent la nourriture. Le plus gros que j'ai trouvé jusqu'ici pesait 1,2 kg. Et aux États-Unis, ils viennent d'en trouver un qui pesait 1,8 kg. Ce sont des monstres.
La communauté scientifique est formelle. La protection des écosystèmes passe par l'élimination des espèces invasives. C'est désormais aux hommes d'assurer la tâche des grands prédateurs qui ont disparu du bassin méditerranéen. La pêche au trident se révèle être la méthode la plus efficace, mais la pêche au filet des poissons lions peut aussi aider. Sur le port de Cache, Mehmet Aytou attend imperturbable le retour des bateaux de pêche. Il coupe, écaille et vide tous les spécimens de poissons lions qui seront ensuite consommés dans le pays. Les épines sont venimeuses et peuvent provoquer de très violentes réactions.
D'abord les épines, la queue, les épines, les nageoires, et puis on enlève les écailles et l'estomac. Et qu'est-ce qui en sort? En général, de petits poissons, des crevettes, de petits homards, on trouve toutes sortes de petits poissons précieux là-dedans. J'ai été beaucoup piqué, mais cela n'a plus beaucoup d'effet sur moi car je vis avec la mer depuis que je suis gamin. Alors les épines, ça me pique et puis ça passe.
L'association de préservation de la Méditerranée rachète les kilos de poissons aux chalutiers pour encourager la pêche. Les prises sont ensuite acheminées vers des restaurants de Cache, d'Ankara ou d'Istanbul. La chef cuisinière Sinem Manajoğlu s'est donnée pour mission de concocter des recettes dignes des restaurants les plus huppés de la capitale. Dans les cuisines de son restaurant Mezetarian, elle fait fondre un carré de beurre dans la poêle avant d'y jeter un filet de chair blanche.
La recette que nous avons au menu depuis le début, c'est le poisson lion au beurre, au vin blanc, au basilic et aux pommes vertes. Ça fait une sorte de plat à la vapeur, c'est très juteux et vous pouvez boire ensuite le jus à la cuillère. La pomme verte et le basilic donnent une touche estivale au plat. Comme la chair du poisson est relativement neutre, le beurre, le vin et l'ail lui donnent du goût. C'est une recette très appréciée et nous ne l'avons jamais retirée de la carte.
Popularisée dans l'émission de télé-réalité Masterchef, le poisson lion séduit de plus en plus d'enseignes. Les concours de pêche, organisés à Fethiye ou à Antalya, permettent certes de limiter l'expansion localement, mais d'autres espèces invasives, comme le poisson ballon non comestible, viennent aussi jouer les troubles fêtes.
C'est toujours comme ça dans les contes pour enfants. À chaque fois, c'est le loup qui est le méchant.
Et les espèces protégées, le loup en fait partie, réintroduit dans plusieurs pays européens. Il est protégé en Suède depuis 1965, mais sa croissance est régulée. Et cette année, la chasse au loup est désormais ouverte. Mais selon les organisations de défense de la vie sauvage, les quotas sont trop élevés et vont à l'encontre de la loi sur la protection du loup au niveau européen. La Commission a déjà lancé 2 avertissements à la Suède. Elle déclare cette année suivre la situation de près. À Stockholm, Carlotta Morteo.
Depuis que la Suède a réautorisé la chasse aux loups en 2010, c'est une bataille des chiffres permanente. Mais cette année, tout particulièrement, le quota fait bondir. 75 loups à abattre d'ici le 15 février, contre 28 l'an dernier. Et si l'on compare avec le total en 12 ans, 203 loups, ça semble beaucoup. Soutenu par les agriculteurs, les chasseurs, qui gardent la fourrure et envoient les corps pour analyse scientifique, défendent leur gestion des meutes dans ces régions rurales où les loups sont accusés de s'en prendre au bétail. La Suède doit respecter le minimum légal de l'Union européenne, maintenir une population de loups entre 170 et 270 têtes dans le pays, mais ce sont des chiffres jugés trop bas par l'Agence nationale de protection de l'environnement suédoise, qui indique qu'un minimum de 300 loups est nécessaire pour que l'espèce soit dans un état de conservation viable. Les organisations de défense de la vie sauvage avancent quant à elles les données d'autres scientifiques selon lesquelles la population de loups scandinaves, pour être génétiquement saine, devrait plutôt compter 2000 loups, bien loin des 460 loups répertoriés aujourd'hui en Suède. À titre de comparaison, l'Italie en compte plus de 3000 sur son territoire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Abonnez-vous en podcast sur vos plateformes préférées à notre émission. Suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. À demain.